Voilà, vous savez que Dieu utilise les enfants, hein. Il les utilise, alors il ne faut pas se priver de leur demander de prier pour nous. Je ne vais pas parler très fort, peut-être le micro, il faudrait le monter. C'est bon ? D'accord, voilà. Et juste pour une fois, je me rappelle, il y a des enfants qui avaient prié pour des adultes. Et après un enseignement, j'avais demandé aux enfants de venir. Et il n'y avait que Ruben qui avait voulu venir. Et Ruben avait prié pour Caroline, entre autres. Et moi, j'étais à côté, je l'entendais, il priait. Mais il disait juste, Seigneur, tu guéris. Et il passait. Et j'avais envie de rajouter ma patte en me disant, mais ça ne va pas suffire pour guérir. Et puis Caroline avait un problème au genou depuis des années. Et tout simplement, à cause de la foi que Ruben avait pour la guérison, Caroline a été guérie. Voilà, donc vraiment... Nous ne nous privons pas de demander à nos enfants de nous bénir, de prier pour nous, parce que le Seigneur les utilise. Voilà, donc ce matin, je voudrais qu'on voie ensemble un texte qui est pour moi la fondation concernant la guérison divine. Alors ce matin, il va y avoir un enseignement, et après je vais faire un petit topo sur les chambres de guérison. Ce n'est pas vraiment la vision, ça c'est Mourad Ziani qui viendra et qui le fera, mais il y aura un petit topo sur l'historique et la présentation de ce que sont les chambres de guérison. Mais pour commencer, donc on le lira plus tard, hein. Ésaïe 53 donc, nous parle de la croix. Et vous savez que tout ce qui nous est proposé dans la Bible, toutes les promesses mentionnées dans la Bible, elles ont leur origine où ? Elles ont leur origine où, toutes les promesses ? À la croix. Elles n'ont pas leur origine ailleurs, elles ont leur origine à la croix. Paul dit, je veux savoir qu'une chose, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Donc la guérison, elle a son origine dans ce qui s'est passé à la croix, il y a environ 2000 ans. Donc pour bien comprendre ce qui s'est passé à la croix, moi je pense qu'il vaut mieux aller dans Ésaïe 53 que dans les évangiles. En fait, je pense que les évangiles vont donner une perspective de la croix humaine, c'est-à-dire qu'elles vont expliquer, voilà, Jésus était sur la croix, il était à côté, il y avait deux brigands, on lui a planté quelque chose dans le côté, il a dit ça, et les évangiles amènent plutôt une perspective humaine de la croix. Et alors que Ésaïe 53 va nous amener une perspective spirituelle de ce qui s'est passé à la croix. Ça nous donne la perspective spirituelle. Donc Ésaïe, donc c'est un prophète, vous savez, hein, c'est le prophète Ésaïe, et il a reçu une révélation de Dieu 700 ans avant que Jésus aille sur la croix. Donc Dieu a donné une révélation de la croix, une révélation d'une perspective divine de la croix à Ésaïe 700 ans avant que Jésus aille sur la croix. Et ce n'est pas une perspective humaine. La perspective humaine, on l'a dans les évangiles. La perspective divine, on l'a en Ésaïe 53. Donc Dieu a révélé à ce moment-là ce qu'il voulait faire sur la croix. Voilà, donc on peut prendre ce passage, Ésaïe 53, versets 4 et 5. J'ai un peu de mal à parler, hein. Excusez-moi, j'espère que ce n'est pas trop pénible. Ouais, j'ai du miel là, au cas où. Certainement, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Voilà, moi je pense vraiment, je crois que c'est le texte fondement de la guérison divine. Vous savez, si on veut bâtir haut, il va falloir creuser profond. Si on veut bâtir une maison très très haute, un immeuble très très haut, il va falloir creuser aussi profond que la hauteur qu'on va vouloir donner. Et je crois que si on veut creuser, si on veut bâtir haut dans la guérison, il va falloir qu'on aille creuser très profond. Et je pense que ce texte d'Ésaïe 53, c'est les fondations. Je crois qu'on peut aller, c'est là qu'on va pouvoir aller creuser pour pouvoir bâtir haut dans la guérison. Je crois vraiment que Dieu nous le donne, pas que pour ça, mais dans ce sens-là aussi. Donc, on peut voir que ces versets, donc le verset 4, commence par « certainement ». Alors, dans presque toutes les versions, c'est « certainement », peut-être pas toutes, mais en tout cas, étymologiquement, quand on va chercher en hébreu, le sens de ce « certes » ou de « moi j'ai certainement » dans une de mes versions de la Bible, ça ne veut pas dire « peut-être ».« Certainement », ça veut dire « sûrement », c'est sûr. C'est pas peut-être. Le prophète, il proclame une certitude, il proclame pas une supposition. Donc il commence certainement, sûrement, c'est sûr, voilà. Donc au verset 4, on lit certainement, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Et j'ai fait une petite recherche. Alors bon, j'ai l'humilité de dire que cet enseignement, il n'est pas que de moi. J'ai suivi une formation à Ouron pendant une année et c'est plusieurs informations que j'ai pu ramener ici. Hein. Je crois que c'est précieux en même temps de se servir de ce que Dieu nous dit ou de ce qu'on entend, que Dieu a dit à d'autres personnes, et après de le compacter et de pouvoir le donner d'une manière toute nouvelle, toute fraîche. Hein. Donc, en grec, le mot souffrance, donc dans ce verset, certainement ce sont des souffrances qu'il a portées, c'est le mot koli, en hébreu, c'est le mot koli, qui signifie littéralement maladie physique. Donc, pour ceux qui sont courageux, vous pourriez prendre vos Bibles, vous pourriez rayer le mot souffrance et écrire et mettre certainement ce sont nos maladies qu'il a portées. Au niveau de l'hébreu, c'est le mot maladie physique. Donc, et ça fait toute une différence, parce que dans souffrance, on peut mettre beaucoup de choses, mais là, c'est spécifiquement ce sont nos maladies qu'il a portées. On pourrait aussi dire, dans ce sens-là, ce sont toutes nos pathologies qu'il a portées. Les pathologies, ça ne veut pas dire les problèmes physiques, il y a les problèmes mentaux, il y a les problèmes émotionnels, il y a les problèmes psychiques, psychiatriques. C'est vraiment bien plus large que la maladie physique. Donc on va faire un petit peu de... On va aller un petit peu voir du côté de l'hébreu pour voir vraiment le sens des mots de ces versets. Et dans le verset, ce sont nos maladies qu'il a portées. En hébreu, le mot porter, c'est NASA. Vous connaissez la NASA américaine, celle qui envoie les fusées? Voilà. Mais c'est exactement ce même mot. Et ça veut dire endurer un châtiment pour quelque chose, porter au loin. Et dans la phrase au verset 4, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Le mot douleur, c'est le mot makob en hébreu. Et ça veut dire douleur. Là, il n'y a rien à changer. Et le mot chargé en hébreu, c'est sabal. Et là aussi, il y a une idée de substitution. Dans le verset, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le mot paix en hébreu, est-ce que vous savez comment on dit? Oui, tout le monde le sait. Hein. Mais en hébreu, en français, paix, on dit shalom, mais en hébreu, shalom représente beaucoup, beaucoup plus que la paix. Je ne sais pas si Thierry peut... Je pense que Thierry, toi, tu connais ça. Donc, ça veut dire beaucoup, beaucoup plus que juste notre paix intérieure. Beaucoup, beaucoup plus. Donc, moi, ce qu'on m'a dit, en tout cas, ce que j'ai entendu dire, ça vient de rabbins, de personnes qui connaissent bien tout ça. Il paraît que quand les gens se rencontrent, en Israël, ou en tout cas... ils se disent Shalom Mashlanka. Je le prononce peut-être pas très bien, hein? Shalom Mashlanka. Et ça veut dire comment va ta paix. Alors, si la personne elle a un problème de santé, elle dit mal. Si la personne elle a un problème financier, elle dit mal. Si la personne elle a un problème de couple, elle dit mal. Si elle a un problème intérieur, elle dit mal. Mais si tout va bien, elle va répondre Shlomitov. Et ça veut dire « ma paix va bien ». Ça veut dire « ma paix va bien ». Donc ça ne veut pas juste parler de paix intérieure, mais ça veut parler de la santé divine. Ça veut parler de quelque chose de beaucoup plus grand. Ce n'est pas restrictif, ça parle vraiment de la santé. On aurait pu dire « le châtiment qui nous donne la santé ». où la sérénité est tombée sur Jésus. Donc shalom veut dire bien plus que paix. J'ai la paix aujourd'hui. Tu as la paix ? J'ai pas la paix. Ça veut bien, c'est bien plus grand que ça. Hein. Il y a une notion de santé, il y a une notion de restitution, il y a une notion de plénitude. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que les deux verbes, il s'est chargé, donc chargé, qu'on dit nasa, et porté, qu'on dit sabal, on va les retrouver au verset 11 et au verset 12. Vous pouvez regarder hein, dans la... Je ne vais pas m'arrêter dessus. Mais dans les versets 11 et les versets 12, il ne nous est plus parlé de maladie, il nous est parlé de péché et d'iniquité. Alors le verset 11, je vous le dis vite, c'est « Il se chargera de leur iniquité », et le 12, « parce qu'il a porté les péchés de plusieurs ». Et en faisant un parallèle, je trouve qu'il y a une richesse, il y a quelque chose vraiment que Dieu veut nous dire, c'est que ça nous démontre qu'à la croix, Jésus, il a traité le péché et la maladie de façon identique. Pour moi, ça a été une révélation parce que je savais que le péché, mon salut, c'était quelque chose de, ouais, plus qu'acquis, de normal, mais j'avais jamais lu et compris que le péché et la maladie, Jésus les a traités également à la croix. Il n'a pas dit « je vais mettre 60% de ce que j'ai accompli, de ma mort, dans le salut, et puis 40% dans la maladie. » Donc, il y a 6 fois plus de chances que les gens soient sauvés que les gens soient guéris. Quand on regarde et qu'on voit les verbes qui sont utilisés, on se rend compte qu'il n'y a pas de différence. On peut recevoir le salut tout comme la guérison. Jésus nous donne le pardon de nos péchés et la guérison de nos maladies. Il n'y a pas plus pour l'un que pour l'autre. Donc quand on prie avec quelqu'un pour le salut, je ne sais pas comment vous faites, hein, en tout cas comment vous avez fait, et quand vous priez, moi je confesse, tu es né de nouveau. Et de même, quand on impose les mains aux personnes qui sont malades, on confesse, tu es guéri. On appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et la manifestation vient avec notre confession. La manifestation de ce qui a été accompli à la croix vient avec notre confession. Et il nous faut planter la semence de la parole pour avoir la moisson. Si on ne plante pas la semence de la parole, on ne peut pas avoir la moisson. Donc Dieu n'a pas à décider aujourd'hui s'il va sauver ou non les perdus. Il l'a déjà accompli, il y a longtemps. Ok ? Il y a un choix. Pour être sauvé, il y a la repentance. La même chose, aujourd'hui, Dieu n'a pas à décider s'il va guérir ou s'il ne va pas le faire. C'est aussi accompli, de la même façon. Alors, soit on va faire le choix, on va prendre la guérison, soit on ne va pas le faire. Mais Dieu, lui, l'a accompli. C'est fait. Donc faites le choix, faisons le choix, prenons-la. Et c'est vraiment important de confesser les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Les choses de la parole qui ne sont pas comme si elles étaient. Pas de confesser ce qu'on voit, qu'on ressent, mais de confesser la parole et les choses qui ne sont pas à la lumière de la parole comme si elles étaient. C'est important. Donc il n'y a pas eu de traitement différent. Ça, c'est pas vrai. Quand Jésus sur la croix, il dit « tout est accompli », il y a aussi Ésaïe 53 qui est accompli pleinement. Donc Dieu visait deux axes. Il visait le péché et l'iniquité, le salut, et il visait la guérison des maladies. Il visait les deux. Et en fait, moi je dis qu'il visait deux axes, mais Dieu ne visait pas deux axes. Dieu, l'emphase que Dieu donne, c'est ça. Poum. Les deux vont ensemble. On ne peut pas dissocier le salut de la guérison. On ne peut pas les dissocier. Et de la même manière que nos péchés ont demandé une croix, un sauveur et un sacrifice, nos maladies ont demandé une croix, un sauveur et un sacrifice, qui en l'occurrence est le même, c'est Jésus. Donc c'est important, ne séparons pas ce que Dieu a uni. Nous, on a cette façon de fonctionner qui fait que nous séparons. Souvent, on sépare en plus selon nos expériences ou selon ce qu'on pense être juste, mais ne séparons pas ce que Dieu a uni sur la croix. Ne faisons pas du salut ou de la guérison quelque chose de plus important, ou quelque chose de plus facile à atteindre, ou quelque chose de plus important. Les deux vont ensemble. Dieu a uni les deux sur la croix. Il est autant mort pour nos péchés qu'il est mort pour nos maladies. Donc vraiment qu'on puisse se le... C'est la vérité. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Ésaïe qui le dit. À la limite, je vous dirais, croyez-le, vous pourriez dire non, Nadine, mais Ésaïe le dit. Voilà, donc c'est important de ne pas bâtir nos croyances sur nos expériences. Ok ? C'est vrai que souvent, c'est plus facile de croire au salut, au pardon pour quelqu'un, que de croire en la guérison. Parce qu'en fait, le salut, c'est quelque chose qui n'est pas concret. Ok ? Ça reste pas concret. La guérison, si j'arrive et que je suis sur un fauteuil roulant, c'est pas abstrait. Si je me lève pas de mon fauteuil roulant, eh ben, on va dire, t'es pas guéri. Si, alors que pour le pardon, c'est on n'est pas dans le concret, on est vraiment dans l'abstrait. On ne peut pas le quantifier. Donc, comme on l'a vu, ce sont les mêmes verbes qui sont utilisés au verset 3 et au verset 4 qui parlent de la guérison, la maladie de la guérison, que au verset 11 et au verset 12 qui parlent du péché et de l'iniquité. Ce sont les mêmes verbes et ça a demandé une même mort, un même sang qui a coulé et une même croix. Ça a demandé la même chose à Jésus. Donc, moi, je pense que Ésaïe 53, quand on prie pour les malades, doit être le fondement de notre foi. Ok ? Ça a été fait. Il faut qu'on ait un fondement. Pour que cet immeuble tienne, il y a un fondement. Et quand on veut prier, et qu'on veut pas juste prier, mais qu'on veut continuer, persévérer, garder une vision, et même quand on ne voit pas de guérison, continuer, on doit avoir un fondement dans la parole. Peut-être que pour vous, ce ne sera pas Ésaïe 53, mais je pense que ça reste quand même un texte qui a un fondement pour la guérison et pour la guérison des malades. En tout cas, moi, sans Ésaïe 53, je pense que je n'aurais pas une foi et une assurance comme je l'ai pour aller chercher la guérison pour les malades, pour me projeter pour de plus grandes choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas vu grand-chose en France, encore que... j'ai le responsable des chambres de guérison qui m'a téléphoné vendredi soir et il faisait une formation en Bretagne le week-end dernier. En fait, donc, il enseigne et puis le samedi soir, il y a une réunion de guérison ouverte pour la ville. Il y a eu 17 conversions. Il y a eu, je ne vais pas dire de bêtises, hein, je crois que c'est 17 conversions. Il y a eu une vingtaine de guérisons instantanées. Il y a eu 7 personnes qui étaient sourdes, qui ont entendu. Et il y a eu encore d'autres choses que Dieu a faites. Donc, là, c'est pareil. On reste toujours... Enfin, en tout cas, pour moi, je reste réduite à ce que je vois, à ma petite vision. Mais quand on ouvre la lorgnette, en fait, Dieu fait des choses. Il va en faire de plus grandes. Il veut en faire de plus grandes. Et il va en faire de plus grandes. Mais Dieu agit. On voit. Et moi, je crois que c'est que le début. Je crois qu'on va avoir vraiment... ce que les évangiles, ce que les actes des apôtres nous parlent, qu'on va avoir des miracles, on va avoir des gens venir à Jésus, on va avoir des vies transformées, on va avoir des miracles, des guérisons, et c'est à venir. Et j'y crois parce que je crois fermement en Ésaïe 53, en ce que dit Ésaïe 53. Donc il ne faut pas se poser de questions, ne soyons pas compliqués, ne nous posons pas la question, mais prions avec assurance pour la guérison. Alors, moi, j'ai souvent entendu dire, j'ai peut-être même moi dire, hein, que ce n'est pas toujours la volonté de Dieu de guérir. Des fois, on est coincé, on est devant des situations, et puis comment on ne sait pas quoi dire. Et peut-être ce n'est pas la volonté de Dieu de guérir. Mais moi, j'ai envie de dire que si je dis ce n'est pas la volonté de Dieu de guérir, ce n'est peut-être pas la volonté de Dieu de guérir. À la réciproque, je dois dire ce n'est pas la volonté de Dieu de sauver. Alors, est-ce que vous êtes comme moi ou est-ce que vous êtes différent de moi ? On ne peut pas dire, c'est pas toujours la volonté de Dieu de guérir, en disant c'est toujours la volonté de Dieu de sauver. C'est pas juste. C'est toujours la volonté de Dieu de guérir. Et c'est toujours la volonté de Dieu de sauver. Ça l'était, ça l'est, et ça le sera. Voilà. Et malheureusement, je pourrais dire, l'Église, au cours des siècles, elle s'est perfectionnée plutôt par rapport au péché, mais par rapport à la guérison, elle s'est atrophiée. Moi, c'est un peu comme ça que je le verrai. Il n'y a pas de souci par rapport au péché, mais par rapport à la guérison, il y a une mesure. On sent que pour le salut, on en est peut-être à la troisième, et puis pour la guérison, on en est à peine à la première. Et il y a encore des vitesses à passer. Il y en a encore. Et je crois qu'il y a des puits, il y a un puits à déboucher, je crois qu'il y a des choses à aller creuser, recreuser, ouvrir, il y a des vannes à ouvrir pour que la guérison coule de la même façon que le salut doit couler. Parce que ça a demandé un même sauveur et une même croix. Alors ce qui est intéressant aussi, quelquefois, quand on a un texte dans l'Ancien Testament, ça je l'ai appris, j'ai fait une école biblique il y a longtemps et ça m'est resté, c'est toujours important d'aller voir si dans le Nouveau Testament, il y a une confirmation de ce qui a été dit dans l'Ancien Testament. Alors là, j'ai été dans le Nouveau Testament et j'ai trouvé qu'il y avait deux textes qui reprenaient Ésaïe 53, versets 4 et 5. Alors le premier, c'est... Là, je ne l'ai pas noté sur ma feuille. Donc, c'est Matthieu 8, versets 16 et 17. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Voilà. Donc, on peut voir, Matthieu dit clairement que l'accomplissement d'Ésaïe 53, c'est quand Jésus guérissait les malades. Concrètement, c'est le ministère de guérison de Jésus. Et le deuxième texte, c'est en 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéri. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait une petite différence ? Petite, mais qui a toute son importance. En fait, Pierre, il a changé le temps du verbe. Dans Ésaïe, on pouvait dire « c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris ». Et Pierre, lui, il dit « c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéri. Et vous savez pourquoi ? Voilà, hein. La croix est passée par là. La croix est passée entre-temps. Et c'est ça qui fait toute la différence. Donc moi, j'ai une bonne nouvelle à donner à tous ceux qui sont malades ce matin. Je me la donne à moi aussi. Qui ne sont pas bien dans leur corps. Moi, je ne vous promets pas qu'on va être guéri, que vous allez être guéri. Mais je vous affirme que vous avez été guéri à la croix, il y a 2000 ans. Je ne vous promets pas que vous allez être guéri, mais parce qu'on a été guéri à la croix il y a 2000 ans. Ça a été fait. Maintenant, on a juste besoin, alors le juste, il est peut-être un peu prétentieux, on a juste besoin que le Saint-Esprit, il vienne transférer dans nos corps subissent une agression de la maladie, le bénéfice accompli à la croix. On n'a pas besoin... On est guéri. On a été guéri. On a été guéri. Maintenant, on a besoin que le Saint-Esprit transfère ce qui a été fait à la croix dans nos corps. Donc notre guérison, elle a quel âge? Elle a 2000 ans. Hein. Notre guérison, elle a 2000 ans. Comme notre salut, il a 2000 ans. Mon salut, il est devenu concret, votre salut, il est devenu concret le jour où vous l'avez saisi par la foi, où vous l'avez accepté, où vous l'avez saisi par la foi. Mais on a été sauvés quand? On a été sauvés il y a 2000 ans, à la croix. D'accord? On a été sauvés le jour où Jésus est mort sur la croix. Pas le jour où je me suis convertie. Le jour où je me suis convertie, en fait, c'est le jour où moi j'ai pris pour moi ce qui avait été fait. J'ai accepté. Mais on a été sauvés il y a 2000 ans. La même façon, on a été guéris il y a 2000 ans. Donc j'ai déjà été guérie le jour où Jésus est mort sur la croix. Il y a un passage qui nous parle que Jésus a été habitué à la souffrance. Et moi je pense, Jésus a eu sa première expérience avec la maladie à la croix, pas avant. Souvent on pense qu'il était habitué à la souffrance, donc ça veut dire que Jésus marchait, il était malade. Mais dans la Bible, dans les évangiles, dans la Bible tout entière, il n'y a aucun passage où Jésus était malade. Aucun passage ne nous parle que Jésus était malade. On voit nulle part. Et moi, je pense plutôt que quand il faut entendre souffrance, pas comme quelqu'un qui était malade, mais comme quelqu'un qui a souffert à cause de l'obéissance, à cause de son désir de marcher, son désir de faire ce que le Père voulait qu'il fasse, à cause de l'obéissance, du rejet aussi qu'il a pu connaître. Mais en aucun cas, à cause, il n'y avait pas la maladie dedans. Jésus, il a eu sa première expérience avec la maladie à la croix, en portant nos maladies. Et de la même façon, je ne pense pas qu'il a porté nos maladies sur la croix d'une manière physique. Est-ce que vous pensez que Jésus, il a eu une éruption de rougeole, qu'il a eu des problèmes de tous ordres, qu'il a eu une grippe? Non, moi je ne pense pas que Jésus l'a porté la maladie de manière physique. Je pense que c'est bien plus grand ce qui s'est passé à la croix. C'est bien, 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 bien plus grand que ça. Et moi je pense que Jésus, et je pense, et j'en suis sûre, que Jésus, il a porté le fondement spirituel de nos maladies à la croix. C'est le fondement spirituel qu'il a porté, qu'il a pris sur lui. Et c'est important de savoir que nos maladies, quelles qu'elles soient, elles ont un fondement spirituel. Et ce fondement spirituel, il a été traité à la croix. Ok, quand on est malade, c'est pas juste j'ai une grippe, c'est pas grave, tout le monde l'attrape, c'est un virus, c'est normal, ça court dans l'air. Bon, il y a des épidémies, certes, mais c'est derrière la grippe, il y a un fondement spirituel, il y a quelque chose qui est là, il y a quelque chose de spirituel. Et c'est important qu'on le sache, qu'on en prenne conscience et qu'on regarde la maladie avec cet œil-là. Il y a un fondement spirituel derrière la maladie. Alors, quand on a un problème dans notre corps qui nous fatigue, qui nous rend malade, qui ronge notre corps, ça, c'est le domaine physique. OK ? C'est ce qu'on voit. C'est la toux, ça peut être toutes les formes de maladies. Mais c'est important de savoir que le fondement spirituel de la maladie qui est en train d'attaquer ton corps, il a été traité et vaincu à la croix. Il a été traité et vaincu à la croix. Et Jésus, il a porté sur la croix le fondement spirituel de la maladie et il l'a vaincu. D'accord ? La croix, c'est, pour résumer, une confrontation spirituelle entre deux mondes, le monde des ténèbres et le monde de la lumière, la mort et la vie. Ça a été une confrontation. Ce n'est pas juste un spectacle, voilà, le pauvre Jésus, il a souffert, et puis une fois qu'il a souffert, il est mort, et puis il est ressuscité, Et puis le pauvre petit Jésus, c'était son destin, et c'est pas ça. Ce qui s'est passé à la croix, c'est qu'il y a deux mondes spirituels qui se sont affrontés. Et le monde des ténèbres a été vaincu par le monde de la lumière. La mort a été vaincue par la vie, à cause de Jésus. C'est ce qui s'est passé. Donc la maladie qui avait un droit à cause de la chute, elle avait un droit dans nos vies, elle n'en a plus aujourd'hui. Elle n'en a plus. C'est fini. Elle n'en a plus. Donc quand on est malade, soit on s'apitoie. Des fois on le fait, des fois je le fais. Des fois on deal un petit peu avec. Des fois pour ne pas aller travailler, on a envie. On pourrait être tenté. Je suis tentée. Je me souhaite jamais d'être malade, mais des fois on en a des petits bénéfices. Mais derrière la maladie, il ne faut pas être complaisant avec la maladie, parce que derrière il y a une puissance spirituelle, il y a une entité spirituelle qui est là, qui a été vaincue, mais à laquelle on a besoin de rappeler constamment qu'elle a été vaincue, et à laquelle on a besoin constamment de demander de dégager, parce qu'elle n'a plus rien à faire dans nos corps à cause de Jésus. Et avec ce regard, en ayant cette vision sur les choses spirituelles, moi je pense qu'il est temps que l'Église, elle redevienne spirituelle dans ce sens-là. Il est temps qu'on arrête de considérer comme anodin, comme normal, les maladies, même les toutes petites, qu'on s'habitue à prendre toutes les années des cachets. Je ne dis pas, si on est malade, il faut le faire, mais qu'on s'habitue à la maladie. Et puis qu'on la tolère, qu'on dise, mais c'est pas grave. Pécher, c'est grave. Mais être malade, c'est pas grave. Allez, va. J'ai des allergies. Et chaque année, je sais qu'il faut que je prenne mon traitement. Et puis jusqu'à la fin de ma vie, ça sera comme ça. Je crois que c'est pas juste. On l'a fait, on le fait. Je le fais. Mais je crois que c'est pas juste. Je crois qu'il s'est passé à la croix quelque chose de bien plus grand. Une guerre qui a été déclarée. Et vraiment une guerre entre le mal et le bien. Et Jésus a gagné. Et on n'a pas à marcher avec la maladie dans nos vies. On n'a pas. Elle a un droit illégal sur nos vies. Alors, on va prier, on va s'y atteler, on va combattre. Si ça ne part pas, on va continuer. On va continuer. On va être tenace, on va continuer. Parce qu'on va se rappeler qu'elle n'a pas un droit d'habiter chez nous. Elle n'a pas de droit d'habiter chez nous. Okay. Peut-être qu'on s'est arrêté, peut-être qu'on a prié pendant des années. Moi, je priais, je me disais, les guérisons, ça doit être instantané. Mais c'est faux. Des fois, c'est instantané. Mais si ça ne l'est pas, ça le sera peut-être dans 2 jours, ça le sera peut-être dans 1 mois, ça le sera peut-être dans 3 mois, il y a peut-être un processus. Mais qu'on continue, qu'on soit déterminé, qu'on soit en colère, qu'on soit hargneux contre la maladie. Quelle qu'elle soit. Pas juste contre les cancers, mais qu'on soit autant en colère contre un rhume, contre une grippe, contre une allergie, contre un problème de vision, contre une rage de dents. Voilà, exactement. Parce que ce n'est pas le symptôme, ce n'est pas la maladie qu'on doit regarder, mais c'est ce qu'il y a derrière de spirituel. Et on a autorité pour que ça dégage de nos corps, et que ça ne s'installe pas, et que ça ne se propage pas. Maintenant, on doit parler les choses spirituelles avec un langage spirituel. On doit traiter les choses spirituelles avec des moyens spirituels. Mais pour traiter avec des moyens spirituels, il faut qu'on ait pris conscience qu'il y a un problème qui est spirituel. D'accord ? Donc, je crois vraiment qu'on doit prendre conscience que c'est une bataille spirituelle. C'est pas une bataille physique, c'est une bataille spirituelle. Pour prendre l'arsenal spirituel, et pour aller avec l'arsenal spirituel pour écraser la maladie. Donc quand on va prier pour les malades, si nos yeux sont fixés sur la dimension physique, on va souvent passer à côté. Mais si on s'attaque au fondement spirituel, alors on va aller plus loin. On va commencer à aller plus loin. On va commencer à voir des choses se mettre en route. parce que le fondement spirituel qui donnait le droit à la maladie d'envahir notre corps, il a été vaincu à la croix. Et on doit le rappeler, on doit le confesser, mais on doit le rappeler à chaque fois qu'on est malade. On doit le rappeler à nos maladies, à nos bobos. On doit le rappeler. Et on peut revendiquer ce droit aujourd'hui, pour nos vies, à cause de Jésus, à cause de ce qu'il a fait à la croix, à cause d'Ésaïe 53.